sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs.
Aujourd'hui, nous sommes en direct du Salon du Livre à la Porte de Versailles et j'ai la chance de recevoir pour l'occasion l'auteur, philosophe et historien de l'art Philippe Alain Michaud pour la publication de son livre intitulé « Sur le film » qui sort aux éditions Macula le 7 avril prochain, mais qui est déjà disponible ici, au Salon du Livre, sur le stand Île-de-France.
Cinéma est un mot grec qui signifie mouvement. L'illusion du mouvement est certainement le complément ordinaire de l'image filmique. Mais cette illusion repose sur la certitude que la vitesse à laquelle se succèdent les photogrammes n'admet que des variations très limitées. Rien dans l'agencement structural du ruban filmique ne peut justifier une telle certitude. C'est pourquoi nous la rejetons. Désormais, nous appellerons notre art simplement le film. Hollis Frampton, pour une méta-histoire du film, 1971.
Après ces paroles de Hollis Frampton qui font la quatrième de couverture de votre livre, on y reviendra. Bonjour, bonjour Philippe Alain Michaud, comment
bonjour.
Allez-vous?
Pas mal, merci.
Alors, je dis juste un petit mot sur Hollis Frampton, photographe, réalisateur, historien du cinéma, très inventeur du cinéma structurel et puis inventeur aussi d'une autre histoire du cinéma. Et vous-même, vous êtes conservateur chargé du département film du Centre Georges Pompidou et vous vous intéressez depuis des années aux relations entre film et histoire de l'art.
Oui. La citation de Frampton a été très inspirante pour moi dans mon travail sur le film, dans la mesure où il suggérait cette distinction entre le film et le cinéma. Et effectivement, je suis parti de cette hypothèse que le film ne se confondait pas avec le cinéma, voire n'avait pas grand-chose à voir avec le cinéma. Et ce qu'on appelle cinéma, et c'est pas un hasard si en français le lieu dans lequel on projette les images en mouvement et le médium porte le même nom, hein. On dit on va au cinéma, et puis le cinéma, ça désigne un corpus d'œuvres. Et je pense que le cinéma, c'est la transformation spectaculaire du dispositif filmique. Et probablement, le cinéma naît autour de 1910, mais l'expérience du film se structure bien antérieurement à la naissance du cinéma à la fin de la première décennie du XXe siècle.
Vous dites 1910 pour l'invention du cinéma, mais en fait dans votre livre on remonte presque au XVIIIe siècle avec l'invention du dispositif théâtral, la remise en question de celui-ci par justement les filmeurs, si je puis dire, les artistes qui se sont servis du film. Mais peut-être on va y revenir. Je voudrais d'abord rappeler que parmi vos publications, on peut citer Abby Warburg, et l'image en mouvement, c'était aux éditions Macula en 98. Il y a eu Le peuple des images, toujours les mêmes interrogations que vous avez poursuivies. Ça, c'était chez Desclés du Brouwer en 2002. Et puis maintenant, ce nouveau livre sur le film aux éditions Macula. Alors, je rappelle pour nos auditeurs que les éditions Macula, c'est des éditions très particulières puisqu'elles ont commencé dans les années 90 ? 80, dans les années 80.
Oui, ça commençait en 80. Enfin,
par une revue qui était extraordinaire.
Ça commence avec une revue dans les années 70 qui s'appelait Macula et qui s'est transformée ensuite en maison d'édition.
Oui, il y a eu les plus grandes rééditions, si je puis dire, et puis aussi les auteurs, Yves Alain Bois, Jean Clay, Rosaline Krauss, Georges Duberman, vous-même et beaucoup d'autres. Une très belle histoire. Qu'est-ce qui se prépare d'ailleurs?
En même temps que mon livre en mai, il y a un livre de Hans Ischler qui s'intitule Berlin est trop grand pour Berlin qui sortira, qui est un livre de 1999. Ischler était l'auteur de Kafka va au cinéma qui était sorti il y a quelques années. Et puis en juin, on sortira un livre consacré au film de Robert Frank et Albert Leslie sur Pull My Daisy, sur le film qu'ils ont réalisé, qui est un film, enfin une sorte d'icône de la culture beat, et qui correspond à l'ouverture de l'exposition que je prépare au Centre Pompidou, qui ouvrira à la fin du mois de juin.
Alors, l'exposition que vous préparez au Centre Pompidou, c'est une exposition sur la Beat Generation.
Sur la Beat Generation, ouais.
Hein, c'est-à-dire sur, c'est quoi le Beat Generation?
Beat Generation, c'est quelque chose qui parle à tout le monde et que personne ne connaît vraiment bien. Alors, le noyau dur de la Beat Generation, c'est Kerouac, Burroughs et Ginsberg, mais il y a beaucoup d'autres poètes et plasticiens qui ont gravité autour de ce mouvement, qui se déplacent de New York à la Californie, à Paris, qui a été un lieu important pour la Beat Generation.
Et auprès de vous, travaille sur ce projet un des témoins comme ça de la Beat Generation, qui est Jean-Jacques Lebel, qui fait partie de l'aventure intellectuelle du projet.
Jean-Jacques est co-commissaire de l'exposition, et ça a été un des acteurs de la Beat Generation, à la fois à New York et à Paris.
Alors, quelques mots sur votre nouveau livre, sur le film. Donc, il se construit à partir de l'hypothèse que le film ne se confond pas avec le cinéma, qu'il n'est pas seulement le dispositif qui installe le public inerte face à une projection animée. Vous proposez qu'avant d'être un spectacle, le film soit une manière de penser les images, et ainsi envisager, vous avez créé dans ce livre un nouveau récit dans lequel les créateurs, dès le 19e siècle d'abord, débordent le théâtre de la projection et excèdent en tout les limites que nous donnons à l'acceptation ou à l'acception ordinaire du mot cinéma. L'espace théâtral, le montage, la durée, la fiction, le scénario, le temps, le mouvement sont réinventés par les artistes, recomposés, triturés, bouleversés, et cette histoire surprenante nous fait traverser des histoires et des êtres, souvent considérés comme des éléments marginaux des récits officiels. Or, ce qui apparaît dans ce livre, c'est que par l'art, la magie, l'architecture, la scénographie, la musique, la science et la dissociation de ces critères, une nouvelle aventure pleine de suspense apparaît. Alors c'est vrai qu'elle se fonde par opposition à la photographie sur des images mouvantes, comme non fixées par la durée, comme impermanentes, parce que mariées à la succession temporelle, mais elle se fonde aussi sur la destruction de l'espace scénique, de la vision bloquée, pour reprendre l'expression de Serge Danet, et ce changement de point de vue nous oblige à reconsidérer l'histoire du film tout entière, à l'associer au système des arts qu'il rejoint et transforme en retour. Pour reprendre une de vos phrases, ce qu'on appelle improprement cinéma expérimental apparaît désormais comme la trace, tout au long du XXe siècle, du fait que l'expérience du film ne se confond pas avec l'histoire de sa dématérialisation. Et donc nous allons voir cela avec vous, cher Philippe Alain Michaud, et nous allons pour cela écouter un premier extrait de votre livre.
Le film ne se confond pas avec le cinéma. Si le dispositif de la projection publique, dans lequel il est venu se configurer au commencement du XXe siècle, est resté l'horizon de son histoire, il s'agit d'une histoire locale, qu'il convient de reconsidérer à partir de ses bords, ses origines, ses marges expérimentales, sa capacité de transfert vers d'autres médiums et d'autres champs, pour rendre à celui-ci et à l'expérience que nous en faisons leur extension réelle. Avant d'être un spectacle, le film est une manière de penser les images. C'est ainsi que, dans les deux premières décennies du XXe siècle, Abby Warburg invente en histoire de l'art un style d'analyse des œuvres fondé sur les propriétés du montage, de la projection et du défilement. Analyse qui trouvera dans Mnemosyne, à la fin des années 1920, son expression à la fois inachevée et ultime. À la lumière des travaux de Warburg, il devient possible, indépendamment de son appareil technique, de considérer le film comme un ensemble de propriétés dissociées, d'observer ses migrations vers d'autres champs et la manière dont, en se déplaçant, il se métamorphose. La projection des images sur un écran devant lequel se tiennent des spectateurs immobiles a fini par recouvrir la totalité de l'expérience que nous faisons du film. Mais avant même que, dans la première décennie du XXe siècle, le cinéma ne devienne la réfraction du monde, son double immatériel ou sa fiction, il est apparu comme une construction. Philippe Alain Michaud, sur le film.
a l'impression dans votre travail que la pensée de Warburg a été un peu séminale dans la reprise en compte de l'ensemble des matériaux du cinéma, au fond, qui donne l'impression d'avoir été éparpillé par les artistes et repris bout à bout pour les remonter, les triturer. Comment Warburg, pourquoi est-ce si important pour vous?
Oui, c'est, bah, j'ai travaillé pendant des années sur Warburg et ça a été le
mon
travail sur le film.
Vous pouvez nous dire à peu près qui c'est?
Alors Warburg, c'est un historien de l'art allemand qui était l'aîné d'une famille de banquiers juifs de Hambourg, qui était censé reprendre les affaires familiales et qui a préféré devenir historien de l'art. Et la légende veut qu'il ait passé un accord avec son frère cadet. Et en échange de son droit d'aînesse qu'il lui cédait, son frère et la famille avec lui lui achèteraient toute sa vie tous les livres qu'il voudrait. Et il a constitué la plus grande bibliothèque d'histoire de l'art du XXe siècle. Et Warburg était spécialisé dans les études d'histoire de l'art de la Renaissance, et particulièrement de la Renaissance florentine. Mais il s'est intéressé dès ses premiers travaux publiés en 1893, c'est les premières expérimentations sur le film.
Vous voulez dire que cette conjonction de Warburg, qui est en train de construire un monde d'images et un monde de livres, et d'essayer de mettre en ressort un peu les psychologies qui peuvent traverser ces mondes-là, et l'apparition du cinéma, c'était important dans la construction de sa pensée?
C'est une coïncidence objective. Warburg commence à s'intéresser à la manière dont les artistes de la Renaissance florentine ont représenté le mouvement au moment où le cinéma est capable de mettre en mouvement les images. Donc il y a une sorte de conjonction objective. Et à partir de 1893, il n'a cessé de mettre en place, jusqu'en 1929, jusqu'à sa mort, il n'a cessé de mettre en place une méthodologie en histoire de l'art qui part non pas de la considération statique des images, mais de leur reconsidération dynamique, du point de vue du mouvement. Alors, on voit très bien se mettre en place dans le travail de Warburg une interrogation à la fois sur le montage, mais aussi sur le cadrage, sur la mise en mouvement des images à travers leur disposition sur les pages de l'atlas sur lesquelles il a travaillé dans ses derniers travaux.
Parce qu'en fait, il rassemble des images, des reproductions, des gravures, des photographies, et il les associe les unes avec les autres.
Alors ça, il a fait ça dans son dernier projet, qui était un projet, une sorte, ce qu'il appelait une histoire de l'art sans texte, qui était un atlas d'images, qui était composé de planches sur lesquelles il rapprochait des images, des détails d'œuvres d'art ou des reproductions d'œuvres d'art, tout médium confondu. Et en fait, il utilise la reproduction photographique comme un équivalent général qui lui permet de mettre en relation des œuvres disparates, à la fois parce qu'elles sont conservées dans des endroits différents et parce qu'elles sont de nature différente. Il rapproche de la sculpture, de l'architecture, de la peinture, etc.
Et comment, à partir de cela, vous arrivez à... Ça vous a aidé à reconstruire une histoire du film?
Le problème, c'est que Warburg s'est très peu intéressé au cinéma en tant que tel. Mais son travail est absolument traversé par la question des images en mouvement. Donc en fait, il fallait trancher le nœud gordien et changer la définition du cinéma pour comprendre en quoi Warburg était intéressé par le cinéma. Et je me suis dit à ce moment que le cinéma n'était pas un spectacle qui consistait à projeter des images dans un espace clos avec un espace séparé entre un écran et un auditorium, mais que c'était un ensemble de propriétés qui se sont agencées d'une certaine manière pour donner naissance à l'expérience moderne de la projection publique qu'on a fini par appeler cinéma.
Mais en fait, quand vous parlez cette partie-là, là, sur le théâtre, effectivement, puisque vous arrivez à dissocier cela, tout de suite vous rentrez dans la redéfinition complète de l'espace, parce que vous évoquez Wagner et son œuvre d'art total, vous évoquez Artaud, la remise en cause de la scène de théâtre et de la position du spectateur, avec l'influence des danses balinaises. C'est la boîte cinéma est déjà attaquée par vous d'emblée et par les artistes.
En fait, le cinéma, il s'est installé dans les emprises du théâtre qu'on a appelé le théâtre à l'italienne. Et on peut faire tout à fait l'histoire de la formation de l'espace cinématographique à partir de la construction de l'espace scénique, de l'espace théâtral tel qu'il se configure au XVIe siècle en Italie. Et L'expérience moderne du cinéma telle qu'on l'a connue tout au long du XXe siècle, elle s'est configurée à l'intérieur de l'espace du théâtre conventionnel. Et en fait, tout au long du XXe siècle, l'expérience du cinéma qu'on a appelé expérimental, ou de l'expanded cinéma, du cinéma élargi, a été toujours une critique de l'expérience cinématographique telle qu'on peut la faire dans la production publique, dans les espaces qu'on a appelés des cinémas. Et à partir du commencement du XXIe siècle, avec la grande vogue du cinéma d'exposition, à ce moment, on a pu comprendre rétrospectivement comment l'expérience du film ne se confondait pas avec l'expérience du cinéma. Et pour le dire de manière un peu abrupte, je pense que l'histoire du cinéma est une discipline locale et que l'histoire du film serait une discipline plus générale pour laquelle les instruments théoriques et historiques qui sont requis dans l'histoire du cinéma sont insuffisants. C'est-à-dire que pour penser l'expérience du film, il faut avoir recours aux concepts qui viennent de l'histoire de l'art et pas simplement de l'histoire du cinéma.
En fait, l'histoire de l'art nous a appris à relire effectivement tout cela. Vous avez raison, c'est un regard rétrospectif. Dans votre travail, il y a un moment où, au fond, les frères Lumière, considérés comme début du cinéma traditionnel, si j'ose dire, sont opposés, me semble-t-il, au travail de Méliès. Il me semble que, tout d'un coup, vous abordez Méliès comme venant plutôt du monde de la magie, du music-hall, et oui, il y a une sorte d'opposition entre les deux.
Ben, je pense que dans le travail de Méliès et dans ce qu'on a appelé le cinéma des magiciens, hein, le cinéma des années 1900-1910, le cinéma est utilisé comme une sorte d'adaptation du spectacle de music-hall aux conditions de la reproductibilité. Et donc il y a une sorte d'usage nostalgique du cinéma pour perpétuer les spectacles que Méliès montait sur la scène du théâtre Robert Houdin. Et au contraire, ce qu'on voit apparaître dans les films des Frères Lumière, qui envoient des opérateurs partout autour du monde pour dresser le catalogue des images du monde, c'est une sorte d'inversion du rapport entre le monde et les images. C'est-à-dire que intuitivement, on sent que les opérateurs ont utilisé la caméra non pas seulement pour enregistrer les images du monde, mais qu'ils ont aussi utilisé le monde pour réfléchir les propriétés du cinéma, et qu'ils ont utilisé les paysages qu'ils filmaient et les mouvements des corps qu'ils filmaient pour identifier les propriétés de cet instrument qui était tout à fait nouveau. Et donc ce n'est pas le film qui montre le monde, c'est le monde qui permet de voir les images du film. Et en fait, il y a une idée qui traverse mon travail, c'est que c'est de essayer de produire une théorie du film émancipée du photographique. Tout au long du XXe siècle, la théorie du film a été dominée par l'idée que le film était une expansion du photographique au mouvement et au temps. Et je ne pense pas du tout. Je pense que le photographique est une application du film, mais en aucun cas une condition de possibilité du film. Donc il y a une conjonction qui se produit à certains points de l'histoire
du film. Cette conjonction, c'est une opposition entre la permanence de la photographie et l'impermanence du film. C'est la possibilité de faire avec du film une sorte d'environnement ou une abstraction totale, parce que l'abstraction va devenir déterminante dans l'histoire du cinéma dès les années Dada, si j'ose dire.
Bah, c'est une question d'opposition entre permanence et impermanence, et puis c'est aussi une question de réfraction. C'est-à-dire que je pense pas du tout que le film soit le miroir de la réalité. La réalité, c'est le matériau du film et en aucun cas son but ou sa finalité.
Est-ce que vous avez la sensation que quand les premiers films abstraits apparaissent, je suppose que c'est Richter probablement, oui, pour une part, ou en tout cas ce climat, Egeling, etc. Oui. Vous le corrigerez peut-être. C'est une façon d'insister sur la matérialité même du support.
Absolument. Quand on regarde, alors, quand on voit le film de Richter, qui est très important, Rythme 21, qu'il a réalisé en 1921, qui est une sorte de prolongement de l'expérience de la peinture de Malevitch au film. Et d'ailleurs, Malevitch, en 1927, a voulu réaliser un film avec Richter à Berlin. Quand on regarde de près le film, qui est fait d'un agencement de carrés qui avancent et qui reculent à la surface de l'écran, et de lignes qui balaient la surface latéralement de droite à gauche et de gauche à droite, on s'aperçoit en fait que les surfaces sont légèrement froissées, sont légèrement marquées, hein, ce qui est une manière d'insister sur la matérialité du film. Et alors, je pense qu'on peut opposer une logique du cinéma qui serait une légende de la séance, une logique de la séance, à la logique du film qui est une logique de la scène. C'est-à-dire que pour que l'expérience du cinéma puisse se constituer, il faut qu'il y ait une séance, c'est-à-dire qu'il y a un commencement et une fin. Et en général, le spectacle cinématographique dure 90 minutes, ce qui est la durée standard d'une pièce de théâtre. Donc, elle est conçue comme un spectacle narratif avec un commencement et une fin. Alors que le film, et on s'en est aperçu avec la vogue de l'installation des films dans les espaces d'exposition, le film a une sorte de présence dans l'espace, et le spectateur ou le visiteur du musée partage le même espace que le film. Alors que dans l'expérience du cinéma conventionnel, une sorte de dématérialisation du corps du spectateur qui est assis dans un fauteuil, qui oublie sa présence, sa réalité physique, et qui se projette à l'intérieur des images. Alors que devant un film installé, le spectateur reste lui-même exactement comme un visiteur de musée reste lui-même en face d'une peinture.
Alors je vous propose, puisque nous avons évoqué les noms de Malevitch et nous avons parlé de cette importance de l'abstraction à un moment donné, d'écouter à présent les paroles de deux pionniers de l'image-mouvement. Tout d'abord Malevitch, qui parle de ciné-peintre en 1925 dans son essai « Le miroir suprématiste ». Puis nous entendrons la voix de Fernand Léger, qui évoque ce film tellement important dont nous parlerons, Philippe-Alain Michaud, « Le ballet mécanique ».
Le cinéma a créé de nouveaux ciné-peintres, metteurs en scène des tableaux filmés. C'est pourquoi tous les metteurs en scène régisseurs sont dans une grande mesure la chair de la chair des anciens de la peinture. Ceux-là ont seulement en main un nouvel instrument de production avec lequel on peut dérouler un tableau dans le temps, fixer par la lumière un phénomène dans un cadre cinématographique, comme auparavant on pouvait peindre avec la lumière une étude. Casimir Malevitch, et il façonne des faces jubilatoires sur les écrans, 1925.
Moi, si j'ai fait le ballet mécanique, c'est parce que je voulais voir... à cette époque-là, n'est-ce pas, je faisais des objets dans mes tableaux. On avait quitté le sujet. Je faisais des objets. J'ai voulu contrôler la valeur de ces objets et de ces fragments d'objets à l'écran. Voilà l'origine de mon film. Quand j'ai eu projeté ces objets, un chapeau de paille qui est nul sur la table, mais qui est valable lorsqu'il se met à bouger, n'est-ce pas ?
Oui.
J'ai compris l'importance énorme du cinéma dans notre domaine. L'objet en mouvement. Simplement les objets les plus banals. Un chapeau, une bouteille, un fragment de casserole. La casserole est nulle, elle bouge, elle est valable.
Alors vous êtes toujours en direct du Salon du Livre en compagnie de Philippe-Alain Michaud dans l'émission Les Regardeurs à l'occasion de son livre intitulé Sur le film, et nous venons d'entendre la voix incroyablement présente, très moderne, de Fernand Léger qui parlait du ballet mécanique. Ballet mécanique, un film assez déterminant dans la structure de la pensée que vous essayez de mettre en place dans ce livre.
Ah oui, absolument. Bah ça tout à fait. Ça recoupe ce que je disais de l'émancipation du film, du photographique. Dans la mesure où Léger pensait que le film, la seule invention du film, il dit quelque part, la seule invention du film, c'est le gros plan. Et ballet mécanique est réalisé avec une sorte, en fragmentant systématiquement le plan d'ensemble et en multipliant les gros plans qui s'enchaînent à une vitesse ultra rapide, de telle sorte que Léger utilise le film non pas pour montrer les objets mais pour les fragmenter. En cela, il rejoint l'expérience de la peinture cubiste. Mais en tout cas, il utilise le film non pas pour montrer mais au contraire pour fragmenter la vision, ce qui est une manière d'émanciper le film du photographique.
Donc, il trouve en fait dans la matière filmique quelque chose qui qui lui permet de déstructurer complètement l'idée qu'on a du cinéma. Mais Malevitch, dont on parlait il y a quelques instants, a lui aussi souhaité faire du film, ou il avait une vision beaucoup plus classique du film? Qu'est-ce que vous avez...
Malevitch a un projet, comme je disais, il avait un projet de film avec Richter. Il a été très intéressé par les expérimentations.
Il n'a pas été abouti,
je crois, hein. Mais ça n'a pas abouti. Il y a des fragments qui sont conservés au Getty à Los Angeles. Mais en tout cas, il avait ce projet de mettre en mouvement les formes géométriques simples sur lesquelles il travaillait depuis le milieu des années 10. Mais alors, dans le texte de Malevitch qui a été cité, il y a une sorte de référence à la peinture, qui est une sorte de survivance. La peinture est restée une sorte de modèle dominant pour réfléchir sur le film tout au long du XXe siècle. Mais en fait, on s'aperçoit, notamment avec l'expérience de Léger dans Belle et Mécanique, que la peinture n'est pas la seule, la référence à la peinture n'est pas la seule manière d'émanciper le film de la spécificité du médium. Et en fait, on s'aperçoit que, notamment à travers les travaux de Richter, que le film a des rapports aussi avec l'architecture, avec le dessin, avec la sculpture, et pas seulement avec la peinture. Donc c'est un fil que j'ai essayé aussi de tirer dans mon livre. C'est essayer de réfléchir sur le film en termes de non-spécificité de médium. De dire que le film est un agencement de propriété qui s'agence d'une certaine manière pour donner naissance à la projection dans un cinéma, mais qui, agencés de manière différente, peuvent donner naissance à des objets sculpturaux ou à des objets architecturaux.
Oui, effectivement, dans le livre, vous évoquez le happening, par exemple, dans lequel parfois le cinéma est utilisé, des projecteurs renversés, des projections partialisées par des structures architecturales à l'intérieur de l'espace, le rapport entre la performance, le film. Vous évoquez également Richard Serra, le travail, la collaboration avec les danseurs, etc. Mais juste encore un instant pour rester sur cette question mécanique, tout d'un coup, j'ai eu la sensation un effet machine quand même qui a été très important. On l'a chez Dziga Vertov, par exemple, dans les films des années 20, qui sont une sorte de version futuriste du film, sans cinéma, sans scénario, je veux dire, sans caméra. On l'a également peut-être chez Marcel Duchamp, le fameux anémique cinéma. Juste pour terminer un petit peu là-dessus, est-ce que c'est le monde de la machine qui est spectacularisé?
La très grande leçon de Anémique Cinéma, de l'unique film réalisé par Marcel Duchamp, c'est de déduire l'expérience du film non pas du mouvement linéaire, mais du mouvement mécanique circulaire. Donc le film de Duchamp, c'est un agencement de disques hypnotiques qui tournent sur eux-mêmes, et puis de textes qui se déroulent, qui sont aussi inscrits sur des disques, et qui se déroulent en valise, selon un schéma d'involution. Et Duchamp avait déclaré, après avoir construit des machines rotatives demi-sphères avec Man Ray, avait déclaré: plutôt que de construire des machines qui tournent, pourquoi ne pas tourner un film? Et donc, il montre comment le film se déduit, non pas, là encore, en dissociant le film du photographique, se déduit non pas de la photo-impression, du système de la prise de vue, mais se déduit du mouvement mécanique circulaire. Donc, effectivement, la référence à la machine est tout à fait prégnante, hein, dans le travail de Duchamp.
Les films abstraits qu'on évoquait tout à l'heure, est-ce qu'ils n'ont pas continué à avoir une importance considérable dans toute l'histoire de l'art? Je pensais par exemple à ces étranges films qu'on appelle les mégapneumes, ou bien les films de Volman, par exemple.
Oui.
Est-ce que là, tout d'un coup, on n'a plus qu'une sorte de boule blanche qui clignote avec un son très étrange?
Là encore, l'expérience de la photographie disparaît de l'expérience du film. Il n'y a plus qu'un battement de lumière. Et dans le cinéma expérimental, il y a toute une tradition dont fait partie l'anticoncept de Volman. Il y a toute une tradition de ce qu'on a appelé les flicker films, des films clignotants, qui sont réalisés uniquement avec des alternances plus ou moins rapides d'amorces noires et d'amorce transparente qui produit à l'écran un effet de battement lumineux.
Et donc, c'est de l'hypnose quasiment. Mais est-ce que c'est pas ça qu'on a aussi avec la Dream Machine de Brian Gysin,
si,
par
si,
exemple?
Tout à fait. Mais la Dream Machine de Brian Gysin a conçu ça avec Ian Somerville. C'est une pièce qu'on exposera dans l'exposition sur la Beat Generation.
Vous
évidemment.
Pouvez la décrire, oui. Peut-être.
Alors, c'est
une sorte de tube.
Un tube de papier ajouré qui est posé sur un électrophone qui tourne à 78 tours et avec, il y a une ampoule au milieu du tube de papier qui produit une sorte de clignotement lumineux. Et c'est un film, disait Brian Gysin, qui peut se regarder les yeux fermés.
Donc oui, parce que c'est dans la transparence des paupières, on a l'effet lumineux qui se passe. Je crois que lui-même avait eu l'expérience dans un autobus comme ça en allant autour de Marseille.
Oui, c'est une sorte de chemin de Damas. Hein. Il a vu la lumière clignoter à travers les arbres qui passaient au-dessus du bus dans lequel il voyageait, et il a eu une sorte d'extase optique que ensuite il a travaillé à matérialiser avec Ian Somerville en construisant cette Dream Machine.
Donc je suppose qu'il voulait essayer d'atteindre une zone particulière du cerveau. C'est quelque chose qu'on a souvent. Je me souviens par exemple dans votre livre de passage, je crois qu'il s'agit de Charitz. Quand il fait des associations avec les visions intérieures, au fond, où tout d'un coup le cinéma ou le film, et c'est presque la limite du titre de votre livre, se déroule sans pellicule.
Oui, y a une histoire. Alors c'est pas une histoire de Charitz, mais c'est une histoire d'un autre cinéaste new-yorkais qui a commencé à faire des films dans les années 70, qui s'appelait Ernie Guerre, que j'aime beaucoup, et qui était tout jeune, quand il était tout jeune et qui voulait commencer à faire du film, la Filmmakers Club de New York prêtait des caméras aux 16 mm aux cinéastes qui voulaient expérimenter le film. Et comme Ernie Guerre était très timide, il a posé aller tout de suite chercher une caméra, et puis au moment où il s'est décidé, il n'y en avait plus. Alors il s'est contenté d'emprunter une cellule photoélectrique et il s'est promené dans New York en mesurant la lumière. Et c'était son premier film, au fond. Hein. C'était simplement le geste de mesurer la lumière.
Grand geste poétique. Oui. Je voudrais revenir sur cette question du cinéma sans pellicule, au fond, quelques instants, parce que à un moment donné, quand vous commentez Charitz, vous associez ça à des visions chamaniques. Charitz lui-même évoque, je crois me souvenir, les psychotropes comme oui. quelque chose de très constructif, d'une pensée intérieure, d'un cinéma intérieur. Qu'est-ce que c'est ce cinéma sans pellicule ?
Cinéma sans pellicule, à partir du moment où on considère que le cinéma s'émancipe de la matérialité du médium, à ce moment on peut voir apparaître des formes filmiques absolument partout, dans la littérature, dans tous les arts visuels, y compris dans les arts réputés statiques, et peut-être dans l'expérience de tous les jours, hein, qui se transforme en une expérience filmique, hein, comme le montre l'histoire de Ernie Guerre. Alors l'histoire, la question des psychotropes, elle a traversé le cinéma expérimental des années 70. Hein. C'est vrai pour la Dream Machine, c'est vrai pour les films de Charitz, mais c'est simplement, je pense que c'est simplement une période de l'histoire de la culture du XXe siècle. Mais cette histoire d'une expérience du film qui soit émancipée des moyens matériels de réalisation des films, elle traverse le XXe siècle. On parlait de Joseph Cornell tout à l'heure. Cornell a réalisé toute son œuvre filmique sans prise de vue, sans tourner une seule image. Hein. Son travail, c'est uniquement un travail de montage.
Donc
avec des films déjà tournés.
Il achetait aux puces, en quelque sorte, des déchets, des débris de films. C'est les recoupait, les remontait. Et c'était très fétichiste parce qu'en général, il s'obsédait sur quelques parties du corps des acteurs, sur des situations exotiques. C'était des blue movies d'ailleurs.
Ben ça, c'est, alors il a réalisé des films avec de la pellicule, avec du home movies, avec des films de famille. Mais il a aussi son film le plus célèbre, c'est Rose Hobart, qu'il a réalisé avec une copie de East of Borneo, une copie 16 mm qu'il avait trouvée dans une boutique du New Jersey. Et le film est simplement un remontage du film source dans lequel il a isolé les portraits de l'actrice qui s'appelle Rose Hobart, mais qui est peut-être une allusion. Enfin, il a peut-être choisi cette actrice à cause de Rose Selavi, à cause de son ami Marcel Duchamp. Ouais. Et le film se transforme en fait en une sorte de méditation sur le système du glamour hollywoodien. et le film devient une sorte de métafilm, de film sur le film ou de critique, de méditation critique sur l'histoire du cinéma. Et donc ça appartient, ça c'est un autre, on parlait du Flickr tout à l'heure, qui est un des grands genres du cinéma expérimental, le found footage en est un autre, et le found footage c'est une expérience du film qui consiste à renoncer à la prise de vue, renoncer à l'usage de la caméra pour concevoir la réalisation des films à partir du matériau film, d'un matériau filmique déjà tourné. Et à ce moment, le film se transforme en une sorte de discours sur le film. Ça, il prend une fonction, pour le dire de manière un peu pédante, il prend une fonction métadiscursive.
Alors, il y a autre chose, il y a un moment dans le livre absolument extraordinaire, je trouve, c'est quand vous parlez de ce cinéma intérieur qui se fabrique à l'intérieur de l'esprit comme ça du regardeur, et vous citez Rilke dans les cahiers de Malte-Lauritz-Bridge, où tout d'un coup le personnage avec sa mère, qu'est-ce qui se passe?
Il déroule, alors toutes les occasions sont bonnes pour citer les cahiers de Malte, mais
oui, c'est merveilleux.
Le texte, alors je pense pas que Rilke ait été absolument obsédé par la question du cinéma, mais quand il déroule ce rouleau de dentelle, il retrouve intuitivement les sensations qui sont celles du spectateur qui assiste au déroulement d'un ruban filmique et qui voit les images se succéder sur un écran.
Je vais vous lire un tout petit passage parce que c'est tellement extraordinaire. Il est avec sa mère, nous défaisions lentement et nous regardions les dessins se dérouler et que nous nous effrayions un peu chaque fois que l'un d'eux prenait fin. Il s'arrêtait si soudainement. D'abord venaient des bandes de travail italien, des pièces coriaces au fil tiré dans lesquelles tout se répétait sans cesse avec une claire évidence. Et il continue comme ça et plus loin il dit « Et ensuite des plantes fastueuses que nous ne connaissions pas étalaient des feuilles immenses, des lianes étendaient leurs bras les unes vers les autres. C'était un vertige, c'était l'hiver, etc. Et c'était un long travail, mais nous ne voulions confier cela à personne. » Donc ce grand déroulement comme ça des bandes de dentelle devenait comme un film...
Un spectacle.
Alors ça c'est ce monde poétique de cinéma intérieur dont nous parlions. Et mais dans l'histoire que vous essayez de décrire, que vous... de façon absolument passionnante, de bout en bout de votre livre, il y a aussi des origines presque scientifiques du cinéma. Quand vous évoquez les figures de Muybridge ou de Marais, c'est-à-dire de ces physiologistes qui essayent de décomposer le mouvement. Alors je vous propose, et nous allons le commenter ensuite, d'écouter à présent un extrait du texte de votre livre sur le film. Je pense... à celui qui... Ah voilà, c'est ça. À présent, un deuxième extrait de votre livre sur le film, qui, je le rappelle, paraîtra le 7 avril prochain aux éditions Macula.
À la transformation de la spatialité réelle en spatialité fictive que produisait la configuration du mouvement dans les limites définies par l'écran, l'oubli de l'inscription des images au profit de la projection ajoutait un degré supplémentaire de déréalisation. À l'aube de la naissance du cinéma, on voit encore nettement s'affirmer, aux États-Unis comme en Europe, dans les recherches simultanées de Edward Muybridge et d'Étienne-Jules Marais autour de la reconstitution ou de la reproduction du mouvement, l'importance accordée au phénomène d'inscription que la spectacularisation de l'image cinématographique allait progressivement masquer. À la lumière de ces recherches, le cinéma apparaît rétroactivement moins comme un dispositif matériel combinant le mouvement et l'impression photographique que comme le symptôme d'un nouveau type d'interrogation élaboré autour des figures et des surfaces. Moins comme un spectacle que comme une activité conceptuelle libérée de la considération des corps sensibles et de leur inscription sociale, économique ou politique. Ainsi se trouve mis en question le présupposé implicite qui fait du cinéma une combinaison de mouvement et d'impression photographique pour laisser apparaître à la place la possibilité même de leur dissociation. Le cinéma photographique n'est qu'un cas particulier du film qui devait prendre au cours du XXe siècle le caractère d'une évidence. En mettant l'accent sur l'inscription du mouvement plutôt que sur la reproduction des corps, sur l'enregistrement ou l'inscription des effets plutôt que sur l'imitation des apparences, l'invention visuelle de Marais dessine une ligne de force discrète mais insistante qui laissera durablement ouverte la possibilité d'une déspécification du médium cinématographique. Philippe Alain Michaud, sur le film.
Philippe Alain Michaud, le travail de Étienne Jules Marais a été révisé du point de vue de l'histoire de l'art, alors qu'il appartenait auparavant presque exclusivement à l'histoire des sciences, depuis une trentaine d'années. Tout d'un coup, on s'est dit probablement que cette chronophotographie appartenait forcément à l'histoire de la genèse du cinéma, mais c'est pour des raisons un petit peu plus lointaines et plus poétiques, au fond, que vous le retenez, me semble-t-il.
Il y avait une vraie résistance de la part de Marais lui-même à toute interprétation esthétique de ces images.
Parce que lui-même était un scientifique, rappelez-le.
Oui, il voulait absolument... Enfin, lui, il travaillait dans une perspective strictement scientifique pour identifier la courbe du mouvement des mobiles.
On est en 1890 à peu près.
Avant, il a commencé à la fin des années 70, et donc tous ses travaux traversent les années 80 et 90. Mais à un certain point,
du 19e siècle, je précise pour nos auditeurs.
Et à un certain point, ses travaux coïncident dans le temps avec ceux de Edward Muybridge. Donc, ils sont rencontrés, mais ils travaillent tous les deux de manière absolument indépendante. L'un en Californie, à Stanford, et l'autre à Paris et à Naples. Et il travaille à un moment où l'idée de la spectacularisation des images en mouvement ne s'est pas encore fait jour. Hein. L'idée de la projection des images n'est pas encore une hypothèse. C'est pour ça que je pense que le moment de l'inscription des images en mouvement, le fait que, par exemple, on puisse regarder une pellicule à l'œil nu, ce qu'on peut plus faire avec le numérique, mais a été oublié, refoulé par l'histoire du spectacle cinématographique moderne. Mais dans la dernière décennie du 19e siècle, les images en mouvement se regardent sans projection. On regarde des images imprimées et non pas des images projetées. Alors, à ce point, le travail de Muybridge et de Marais diverge. Puisqu'en fait, Muybridge, c'est l'inventeur de l'intermittence. Hein, dans ces planches qui sont des sortes de grilles à l'intérieur de laquelle on voit des mobiles se déplacer de cadre en cadre, on voit très bien se dessiner le dispositif de la projection avec l'interrupteur qui le volet qui, en se fermant et en s'ouvrant, produit l'illusion d'un mouvement continu. Alors que l'idée de Marais est tout à fait différente. Ce que Marais cherche à faire, c'est à débarrasser le mouvement de son apparence. Hein. C'est-à-dire qu'il veut donner une représentation pure du mouvement dégagée de l'apparence du mobile. Et donc, ces images tout à fait fascinantes de Marais correspondent en fait à un projet scientifique, entre guillemets, de Marais, qui cherche à optimiser les dispositifs balistiques, etc., mais pas du tout à un projet esthétique. Mais
c'est curieux parce que on invente l'inconscient de l'esprit, au même moment on invente l'inconscient du visible, comme ça, avec Marais, quasiment la perception comme ça d'un invisible que l'on a jusqu'à soi, et on invente le cinéma à 3 ans près. Tout d'un coup, il y a une sorte de structuration, de réorganisation totale de ce qu'il était, l'inaperçu, qui est très frappant à cette période-là.
L'inaperçu ou les fantômes, hein, ce que donne à voir Marais sur ces images, sur les planches, sur les plaques chronophotographiques, ce qu'il donne à voir, c'est non pas l'apparition des corps, c'est leur disparition. Et donc, il donne à voir des fantômes. Et quand on regarde un film, il y a une expérience assez simple à faire, une sorte de conversion mentale à faire. Quand on regarde un film, on est toujours, le regard est toujours finalisé. On regarde la formation des figures et on ne regarde pas leur disparition. Mais on peut inverser la preuve et essayer de regarder comment les figures disparaissent au lieu de regarder comment elles apparaissent. Et à ce moment, on est tout à fait dans une perspective marienne, et le sens même du spectacle cinématographique se modifie.
Alors, il y a une expérience que vous rapportez dans votre livre, et l'objet est extraordinaire. Je crois que on peut le voir au musée Marais en Bourgogne. C'est un petit tube de carton noir, noirci, et avec un bourdon sur lesquels Marais a mis des paillettes d'or et qui font donc des ellipses à l'intérieur, en volant à l'intérieur de cet objet, qui est une des très belles œuvres d'art du début du XXe siècle ou de la fin du XIXe, je ne sais pas exactement quand c'était.
Oui, mais quand on est attentif au protocole que Marais utilisait pour faire disparaître les corps, on est tout à fait fascinant. Mais simplement, quand Marais passait à la poudre d'or les ailes du bourdon, c'était pour faire disparaître les ailes du bourdon. Et nous, ce qu'on voit, c'est des ailes passées à la poudre d'or.
Oui, c'est cela. Alors, il y a quelqu'un qui est assez extraordinaire et qui, d'une certaine façon, lui aussi était très intéressé par la représentation du mouvement et par le film. Vous l'évoquez dans votre livre, c'est Brancusi.
Oui. Ben, Brancusi a été, il a eu une pratique très constante hein, du film. Alors on sait l'importance de la photographie dans le travail de Brancusi et comment il se servait de l'appareil photographique pour recomposer l'agencement des sculptures à l'intérieur de son atelier. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il a utilisé une caméra pendant 20 ans dont Man Ray lui avait appris à se servir au début des années 20 et qu'il se servait de la caméra pour révéler la dimension dynamique de ces sculptures. Alors il le faisait en deux sens, d'une part parce que les sculptures étaient effectivement animées d'un mouvement mécanique, hein, comme la Leda qui tournait sur un disque qui était animé par un moteur de phonographe modifié qui lui permettait de tourner dans les deux sens.
Et effectivement, hein, il y a ce très beau film où il le pousse comme ça du doigt et tout d'un coup elle tourne sur elle-même. Et le poisson, c'est aussi effectivement la vitesse, quoi, la vitesse de déplacement du poisson.
Donc les sculptures, le film permet de révéler la dimension dynamique des sculptures, mais il permet aussi d'activer de la dynamique dans les sculptures, puisqu'il utilise beaucoup les panoramiques ascendants, notamment sur les colonnes sans fin, pour montrer comment ces structures modulaires qui virtuellement peuvent se prolonger à l'infini sont des structures en elles-mêmes dynamiques.
En fait, c'était la recherche permanente d'une synthétisation du mouvement dans l'objet qui a pu, au fond, s'exprimer grâce au travail qui a été fait ensuite par le film et par lui-même au moyen du film. Il y a d'autres artistes qui ont travaillé sur la colonne sans fin de Brancusi dans le monde du cinéma.
Il y a Paul Charitz dont vous parliez tout à l'heure, hein, qui est parti à la fin des années 70, qui est parti à Tiergoggio.
Ça devait pas être facile. Non, pas en Roumanie, donc, cette période.
Buffalo, il a enseigné à Buffalo, donc Buffalo, Tiergoggio, c'était un voyage compliqué à la fin des années 70. Et en fait, je pense qu'il allait, ce qui l'intéressait, enfin c'est une hypothèse, mais ce qui intéressait Charitz, donc qui était surtout un cinéaste, c'était de comprendre la dimension sculpturale de son propre travail de cinéaste à travers l'expérience de Brancusi. Mais à la fin des années 70, il n'avait pas la moindre idée du fait que Brancusi avait tourné des films. Mais simplement, intuitivement, il avait décelé dans la sculpture de Brancusi des structures dynamiques qui lui permettaient de déchiffrer son propre travail de cinéaste.
Alors on se rapproche des années 60-70, alors que nous étions beaucoup dans l'archéologie jusqu'à maintenant. Je vous propose donc d'écouter enfin un texte de l'artiste américain Robert Whitman, connu depuis le début des années 60 pour ses créations théâtrales mêlant images, sons, acteurs, projections, photographies et films. Et le mot théâtral est sans doute pas juste du tout. On est beaucoup plus proche du happening, on en reparlera. Écoutons-le.
J'utilise le film pour l'échelle, pour la durée et pour le changement de couleur. Le film peut établir des rythmes qui font écho ou contredisent le rythme de la performance elle-même. Le film fonctionne comme une horloge. Le temps est un élément substantiel. La forme sous-jacente nous sollicite à travers le temps et par la manière dont le temps est traité. Dans le film, une couleur peut en contredire une autre plastiquement dans le temps. Le film est une manière d'architecturer l'espace. Le film peut fonctionner comme une source de lumière. Parfois, j'utilise le film parce qu'il est difficile de convoquer l'objet réel dans l'espace. Parfois, le film est la seule manière de faire ce que je veux, du point de vue du temps, de l'espace et pour des raisons financières. Le film est le souvenir que quelqu'un a réalisé les images, qu'elles ont été prises pour être montrées à quelqu'un d'autre. Robert Whitman, 1976.
Philippe Alain Michaud, nous sommes ensemble au Salon du Livre, à la Porte de Versailles, et nous commentons votre livre, le film. Et donc, je voudrais vous demander peut-être de dire quelques mots du travail de Robert Wittmann, parce qu'on vient de l'entendre commenter son rapport au film. Qu'est-ce que c'est son travail ?
Wittmann, il a été à la croisée du film et du happening au début des années 60. Hein. C'était une des grandes figures de la scène du happening après Capro, dont il était proche. Et il a réalisé deux grandes séries de pièces. Une première série qu'il a appelée des theater pieces, donc des pièces de théâtre, hein, littéralement, et une autre série qu'il a appelée des film pieces. Et les theater pieces, c'était une manière de déconstruire l'espace du théâtre, l'espace de la scène théâtrale conventionnelle, en se servant de l'expérience du film. Et sa pièce la plus connue dans cette série s'intitule Prune Flat. Et Prune Flat a été tournée dans l'espace de la Cinémathèque de New York, dans lequel il a trouvé un espace avec une scène très étroite sur laquelle il faisait évoluer trois danseuses et derrière lesquelles il y avait une projection de film, et au-dessus des danseuses une autre projection qui projetait sur le corps des danseuses des vêtements, de sorte que le dispositif ressemble, d'une part, permettait de fusionner la projection et la représentation théâtrale, et d'autre part de transformer le spectacle cinématographique en une sorte d'effeuillage, puisqu'on voyait les vêtements des danseuses changer au fil du spectacle.
Est-ce que vous êtes d'accord avec son point de vue ? Parce que je trouve que on peut en discuter, le film est le souvenir que quelqu'un a réalisé des images. Alors je voudrais opposer à cette hypothèse le travail d'Anthony McCall, par exemple, où donc dans le travail d'Anthony McCall, il n'y a pas réellement d'image, c'est le cône de lumière qui est devenu, en quelque sorte, l'objet du film.
Oui, alors effectivement, il n'y a pas de ce que Wittmann pointait, c'était la dimension documentaire du film. Le film est une sorte de témoignage. Alors, effectivement, dans le cas de McCall, ça disparaît puisque la pièce filmique se confond avec l'expérience de la présence du film dans l'espace. Alors il faut expliquer un instant ce que c'est que son film séminal, qu'il intitulé Line Describing a Cone, ligne décrivant un cône, qui est un film qui dure une vingtaine de minutes, qui a été tourné en 16 mm, enfin réalisé en 16 mm plutôt que tourné, et qui est constitué d'un cercle qui se forme progressivement sur la pellicule, qu'il a dessiné avec un compas et un crayon sur de l'amorce, et qui est projeté dans un espace homogène, hein, y a pas de siège, pas de cabine, le film est projeté dans la fumée. Hein, il faut qu'il y ait. Alors, quand il a créé la pièce,
il y avait un peu de pollution à New York, et
quand il a créé la pièce en 70, les gens fumaient dans les lofts, donc la fumée des cigarettes suffisait à produire l'effet de transformation du film en sculpture, puisqu'en fait, au début de la pièce, à la première des 20 minutes, on voit simplement un fil de lumière qui traverse l'espace, et puis au bout de 20 minutes, on voit le cercle est complètement formé, on voit le cône de lumière se dessiner qui sort du projecteur, de l'objectif du projecteur, et qui se forme dans l'espace.
Et avec la fumée dans l'espace, il y a une membrane, on a la sensation que le cône de lumière devient une membrane,
il prend une
sur
consistance
laquelle
matérielle.
Les turbulences en fait que la fumée souligne apparaissent, c'est un spectacle extraordinaire, mais sur le halo.
Le cône de lumière se rematérialise et prend une consistance matérielle dans l'espace, ce qui est une manière de rematérialiser le spectacle cinématographique. Mais pour que ça fonctionne, pour que le film se transforme en sculpture, il y a deux conditions. Alors la première, elle est assez évidente, il faut de la fumée dans l'espace pour que le rayon lumineux, pour que le cône de lumière, le faisceau lumineux prenne une consistance matérielle. Mais la deuxième condition, et qui est qui passe plus inaperçue, c'est qu'il faut que tous les points de l'image soient conservés. Dans l'expérience ordinaire du film, pour qu'une image apparaisse, il faut qu'une image disparaisse. Hein, une image en chasse une autre.
En effet, mais
en fait, dans le cas du film de McCall, chaque point, la première image envoie simplement un ray de lumière, dans la seconde un ray de lumière plus épais, etc., jusqu'à ce que le faisceau se constitue. Mais toutes les images sont conservées. La première image subsiste dans la dernière image du film. Et donc, ça conduit à une sorte d'équation simple, c'est que pour que le film se transforme en sculpture, il faut que la succession se transforme en simultanéité.
Est-ce que, j'ai l'impression que vous contestez l'hypothèse comme quoi votre livre serait une histoire du cinéma expérimental ?
Non, c'est pas une histoire du cinéma expérimental, puisqu'elle est, le livre n'est pas linéaire et il est incomplet. C'est plutôt une sorte d'histoire déconstruite de la manière dont l'expérience du film s'émancipe de l'histoire du cinéma en se libérant de l'impératif du photographique.
Est-ce que on voit comment les artistes se sont emparés de la déstructure qui fabrique l'idée même de cinéma et comment est-ce que le film peut être désorganisé pour être proposé autant de sujets? Est-ce qu'il y a eu une influence inverse? Est-ce qu'il y a eu une influence du travail sur le film fait par les artistes sur le cinéma?
Je suis pas sûr de comprendre votre question.
Au fond, les artistes empruntent au cinéma son vocabulaire, oui. Le bouleversent, le triturent, le réorganisent. Est-ce que les cinéastes du cinéma commercial, ça, se sont emparés de certains des travaux des artistes?
Ah oui, bien sûr. Par exemple, il y a un cinéaste expérimental de la côte ouest de San Francisco qui s'appelle Jordan Belson, qui a fait une série de films expérimentaux absolument sublimes avec une sorte de dimension cosmique dans les années 60, qui a fait des projections qui sont restées mythiques dans l'observatoire de San Francisco, les Vortex Concerts dans les années 60. Et Belson a travaillé pour l'industrie du cinéma à Hollywood et il a réalisé plein d'effets spéciaux pour les films de science-fiction hollywoodien. Donc à l'intérieur des films de science-fiction de Hollywood des années 60, on peut trouver des petits Jordan Belson insérés au moment des scènes d'effets spéciaux.
Cette aventure, les jeunes artistes continuent à s'en emparer. Je pense à Laurent Montaron, par exemple, ou d'autres.
Oui, bien sûr. Montaron, c'est un grand artiste du médium analogique. Alors, la question, c'est celle de l'inscription sur le ruban filmique, puisqu'aujourd'hui, avec le numérique, cette question de l'inscription disparaît. Mais c'est pas parce que le ruban filmique disparaît que l'idée de traiter le film comme un art visuel qui requiert les catégories de l'histoire de l'art pour être pensée, c'est pas pour ça que cette expérience disparaît. Donc Laurent Montaron, absolument, est tout à fait dans cette tradition.
Donc c'est une histoire qui continue. Et c'est une question bête, peut-être pour la fin, vous-même, vous n'allez donc jamais au cinéma ?
Si, beaucoup, oui, mais je suis pas sûr de comprendre toujours les histoires que racontent les films de cinéma.
Parce que vous regardez autre chose, je discutais avec Jean-Michel Alberola, par exemple, il y a quelque temps, et il me disait, mais moi, ce qui m'intéresse au cinéma, c'est de compter les plans. Oui. Et au fond, chacun se fait son film, d'une certaine façon.
Oui, bah, quelquefois, je regarde le bas de l'écran pour voir ce qui se passe dans les westerns, par exemple. C'est intéressant de voir ce qui se passe dans le tiers inférieur de l'écran, parce qu'il y a très souvent une circulation des chevaux qui correspond pas du tout à la logique narrative des deux tiers supérieurs de l'écran.
Les artistes ont aimé évidemment ce cinéma. Je pense à l'influence qu'ont pu avoir sur les artistes plasticiens, par exemple sur Picasso, l'importance du gros plan qui a été considérable. Pollock qui se mettait toujours au premier rang dans les films pour faire disparaître l'image en quelque sorte, pour être tellement près de l'image que ça devenait en effet un all-over.
Oui, ben Jack Smith et Ken Jacobs, qui sont deux cinéastes expérimentaux new-yorkais, ont découvert le film de Rosobard de Cornell. Ken Jacobs, qui avait été l'assistant de Cornell, racontait qu'il le projetait dans tous les sens. Il le projetait au plafond, à l'envers, sur le sol, pour essayer de comprendre comment était fait le film, en oubliant sa dimension narrative.
Merci infiniment, Philippe Alain Michaud. Merci pour ces commentaires. Ça aurait pu durer des heures.
Sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous étions en direct du Salon du Livre en compagnie de l'auteur, philosophe, historien, conservateur Philippe Alain Michaud pour la parution de son ouvrage intitulé « Sur le film » aux éditions Macula et qui sort le 7 avril prochain. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques évoquées pendant l'émission sur le site franceculture.fr. Attaché d'émission et site internet Sylvia Favre, merci Sylvia. Lecture des textes, Éric Herson-Macarel. À la technique, Élise Le et Gilles Manet. Réalisation, Franck Lilin. Les Regardeurs, une émission de Sandra Adam et Jean Deloisy. Et dans quelques instants, Catherine Libert et Ville Monde.
Retrouvez l'actualité des arts plastiques dans Beaux-Arts Magazine.